voisin avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour Abidjan, salut les voisines et les voisins. ...7 milliards de voisins, on est très très heureux d'être parmi vous aujourd'hui sur le campus de l'Université Oufouette-Boigny à l'occasion du FEMUA. Avec vous, les jeunes, on va chercher celles qui manquent à l'appel. Au lycée, à l'université, en Côte d'Ivoire, où sont les filles? Depuis plusieurs années, vous le savez, le pays tente de promouvoir l'éducation des filles avec une politique de scolarisation obligatoire de tous les enfants de 6 à 16 ans. Et pourtant, eh bien, si on a presque la parité filles-garçons à l'école primaire, eh bien, les filles s'évaporent peu à peu au collège pour être franchement en minorité sur les bancs de l'université. Les filles, est-ce que vous voulez bien lever la main là dans la salle? Ouais, quand même, vous n'êtes pas nombreuses, hein. On est d'accord. Alors, est-ce qu'il y a un problème de système éducatif, un problème de culture familiale? Quel est le poids des grossesses précoces aussi dans le décrochage des filles sur la route des diplômes? Et puis, depuis plus d'une semaine, il y a cette affaire aussi qui enflamme la Côte d'Ivoire sur la culture du viol à propos d'une émission de télévision. Une libération de la parole sur les violences sexuelles peut-elle relancer finalement le débat sur les discriminations scolaires envers les filles? On en parle avec nos invités et le public. Et avec nous, une star de la variété ivoirienne. Votre voix, José, est-ce qu'on peut vous entendre?
Salut. Bonjour. Mes amis, salut ma famille, salut les voisins et les voisines, c'est un plaisir.
José, star ivoirienne de la variété, vous êtes aussi diplômée du supérieur, ça on le raconte moins souvent, mais vous avez délaissé une carrière dans l'administration pour la musique, vous allez nous dire pourquoi, le titre qui vous a propulsé. Ses diplômes en 2015. Et puis maintenant, il y a le premier album, le tout premier album qui est sorti en mai dernier, Cocktail. Avec nous également, sur la scène à l'Université de Cocody, Julie Connet, qui est présidente de l'ONG CEFSI. C'est le Centre féminin pour la démocratie et les droits humains en Côte d'Ivoire. Julie Connet, vous êtes ingénieure, vous travaillez dans l'agroalimentaire, mais vous êtes aussi, surtout, une militante. Vous allez nous dire pourquoi et comment. Et puis avec nous un expert, un sociologue de l'éducation, Zamblé Théodore Gouimbi, qui vient de l'université Péléforogan de Koulibaly de Korogo, à 600 km d'Abidjan. Bonjour Théodore. Et bien sûr, on vous donne la parole. Tout de suite, je voudrais qu'on entende Christelle.
Bonjour.
Christelle, toute votre scolarité, ça a été un combat d'élèves, un combat de femmes.
Alors, je lui ai dit que ça a été un combat, tout mon cursus, parce que d'abord, ça a commencé depuis l'école primaire. J'ai eu 12 ans, presque 12 ans, avant de commencer la scolarité, le CPE. Donc, j'allais déjà à l'école avec les seins. Je me rappelle que tous les matins, on devait me taper sur la poitrine avec la spatule, ici qu'on appelle le bois de placalite, pour ne pas que ma poitrine saute. Donc, ça a été assez difficile. Parce qu'au départ, ce qu'on voulait, c'est que je fasse fille de ménage. C'était à Grand Bassam. Tout le monde partait à l'école, mes petits frères ont été scolarisés avant moi. J'ai dit, mais attends, c'est pas possible que moi je reste là à faire le ménage d'autres, alors que mes frères sont en train d'aller à l'école. J'ai dit, c'est pas possible. Donc j'ai fait ce que j'ai pu en tout cas pour être scolarisée à ce moment-là. Les parents chez qui je devais être comme fille de ménage, c'est eux finalement qui m'ont scolarisée. Voilà.
Donc vous êtes arrivée à l'école primaire déjà en retard en fait.
Il fallait m'inscrire à 7 ans.
Et ensuite?
L'école primaire, ça a été déjà bon parce que, puisque je n'étais pas nulle, j'étais tout le temps au devant, j'étais tout le temps première du département, de partout de l'école, donc il n'y avait pas de problème. Donc on ne pouvait pas finalement trouver d'excuses pour que je ne sois pas à l'école. Donc ça a continué jusqu'à ce que j'ai l'entrée en sixième. C'est là en fait qu'un autre combat allait commencer.
À l'entrée en sixième, vous aviez quel âge?
J'avais presque 18 ans parce que le CEP, c'est 6 ans. Donc si j'ai passé 6 ans, parce que À chaque fois, je me rappelais, on me demandait, à partir de la deuxième année, déjà à l'école primaire, on me disait, je demandais à mes parents de me faire passer au CE. Ils ont refusé. Les parents ont dit non, c'était pas possible. Ils me laissaient continuer le cursus normalement. Donc, je suis allée. CE2, par exemple, ils ont dit, bon, elle va passer, présenter l'entrée en sixième. Les parents ont dit non, il faut qu'elle continue son cursus. Donc, je fais 6 ans. Donc, j'avais déjà presque 18 ans dans la réalité. Donc là, j'arrive en sixième et on me dit, il faut que tu fasses autre chose que d'aller à l'école parce qu'il n'y a pas d'argent.
Et autre chose, ça voulait dire quoi?
Autre chose, c'est que je fasse la couture ou la coiffure.
Ouais. Et vous, alors, Christelle, qu'est-ce que vous vouliez
là,
faire?
Là, ce n'était pas possible aussi parce que, je vais vous dire, en 36e, j'ai eu 162 points sur 170.
Waouh, wow. Presque le maximum.
J'étais déjà à boussière. Et là, on me demande de laisser tomber. C'était compliqué.
Ça vous semblait injuste?
C'était injuste parce que mes camarades allaient déjà partir à l'école et que moi j'allais rester à faire la couture. Non, c'était pas possible pour moi. C'est vrai que je ne dis pas que c'est un mauvais métier, mais c'était pas possible pour moi en tout cas.
Voilà. Comment vous avez fait pour rester au collège, pour financer vos études, pour... parce qu'il a fallu aussi trouver un logement. Où est-ce qu'il était votre collège par rapport à votre ville?
Le collège, c'était à Grand Bassam, le lycée moderne de Grand Bassam. Et j'étais à la frontière. Noé, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent.
Vers le Ghana.
La frontière Ghana-Noé. C'est là, en fait, que j'ai fait le CP. Voilà. Donc, là, je suis orientée à Grand Bassam. Parce qu'au départ, ce qu'on voulait, c'est que je reste, en fait, chez les personnes chez qui je devais être fille de ménage. Parce que c'était à Bassam, en fait, que je devais être. C'est pour cela, en fait, qu'on a demandé que je sois orientée, en fait, à Grand Bassam. Et là, qu'on arrive, eux me disent, mais c'est pas possible qu'on t'accueille ici. Tu as déjà refusé de rester chez nous pour faire le ménage. Et là, tu reviens en tant qu'élève, c'est pas possible qu'on t'accueille. C'est comme ça en fait que ça allait aussi commencer parce qu'il fallait trouver des tuteurs. On me dit il n'y a pas d'argent et qu'il faut chercher encore d'autres tuteurs. C'est là en fait qu'il y a ma mère adoptive, elle a dit bon ce qu'on va faire, moi je ne peux pas faire grand chose. Parce qu'elle aussi elle avait la pression de ses parents qui disaient mais non c'est pas ton enfant, donc c'était un peu compliqué.
Christelle, aujourd'hui je sais que vous aidez d'autres filles qui vivent la même histoire que vous. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire aux filles aujourd'hui qui nous écoutent?
Nous sommes tous nés en fait, on est nés de la même manière. Il y a une marraine qui me disait un jour, pour Sœur Petroni, elle disait comme ça que le cerveau n'a pas de sexe en fait. Donc il n'y a pas de cerveau femme, il n'y a pas de cerveau homme. Donc il faut foncer en fait, il faut dire que je n'abandonne pas, je dois y aller, et que je dois réussir. Parce que moi aussi j'ai la chance de réussir, donc il faut que moi aussi je réussisse. L'association est venue comment en fait? Quand je suis sortie du lycée, parce qu'il y avait un autre combat aussi, parce qu'au lycée, vous voyez, il y avait beaucoup d'harcèlement aussi à ce niveau-là. D'enseignants, harceleurs, excusez-moi de le dire, mais ça existe partout. Moi, j'ai eu la chance de m'en sortir, alors qu'il y en a beaucoup d'autres qui n'ont pas pu, en fait, qui sont restés sur le chaos, qui sont restés à la maison à faire des enfants, qui ont été, en fait, sous l'influence de ces menaces. Je me rends compte qu'il y a une réalité, je n'ai pas d'argent, si je dois commencer une ONG tout de suite, ça allait être difficile. Donc, il fallait circonscrire mon combat sur la science et la technologie, puisque là aussi, il y avait une autre différence, parce qu'il n'y avait pas assez de filles aussi. Donc, il fallait aussi que j'accompagne ces filles-là, j'encourage, je fasse en sorte qu'il y ait beaucoup plus de femmes dans le domaine scientifique. Mon ONG, je ne l'ai pas abandonné, je vais mettre en place parce que ça va venir.
Merci, merci pour ce témoignage, Christelle. Je crois que vous avez presque tout dit. Vous avez balayé tous les problèmes à la lumière de votre propre parcours, Christelle. On va donner aussi la parole à Élodie. Merci à vous, Christelle. On peut vous applaudir encore. Bonjour Élodie, merci d'être avec nous. Élodie, vous avez 29 ans, vous êtes en doctorat de littérature hispano-américaine. Pour vous, le problème dont on vient de parler, la longue route tellement semée d'embûches des filles sur la route du diplôme, ça vient beaucoup des parents.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour moi, ça ne vient pas forcément des parents. Je m'explique, je parle de la pesanteur sociale. Et quand je parle de pesanteur sociale, nous sommes dans une société où généralement c'est l'homme qui est mis en avant. Et quand il y a un choix à faire, on préfère scolariser le garçon. C'est en cela que je dirais, les parents ont leur part à jouer. Mes sœurs et moi, parce que mon père il a 5 filles, toutes les 5 sont allées à l'école et nous toutes nous avons des... diplôme de master.
Ouais, il y a les histoires de pesanteur sociale, Élodie, mais je sais aussi que quand on a préparé cette émission, vous avez dit, moi, je veux aussi parler de ce qui se passe sur le corps des filles.
Oui, j'en viens.
Dès l'école primaire, parfois.
Oui, j'en viens. À partir déjà du primaire, tout à l'heure, Christelle le disait dans son intervention, qu'au CM2, déjà, elle avait des courbes qui commençaient à sortir et des seins qui sortaient. On était obligés de passer la spatule. Donc déjà,
la spatule, expliquez-nous, Élodie.
On tape les seins avec des bois.
On tape les seins avec un morceau de bois.
Pour ne pas que ça soit vu.
Pour rester plate.
Plate.
Pour ne pas susciter le désir des garçons.
Pas des garçons généralement, parce qu'au primaire, ce sont des enfants, les garçons. Mais des hommes.
Des hommes.
Des enseignants eux-mêmes. Et c'est à ça que j'en viens. L'une des causes pour lesquelles nous avons aussi un taux de scolarisation inférieur au niveau des femmes, ce sont les harcèlements sexuels. Parce que tout au long de nos parcours en tant que femmes, beaucoup de femmes ont rencontré cela. Et moi-même, ma mère, par exemple, elle a été obligée de changer d'école au CM2, de changer carrément de ville, d'aller dans une ville où elle n'avait personne. Ce qui a fait que les objectifs qu'elle s'était fixés auparavant, elle n'a pas pu les atteindre parce que son maître de CM2 la harcelait. Il voulait d'elle, il voulait avoir des rapports sexuels avec elle et elle n'était pas d'accord.
Les réactions dans la salle, là, vous n'êtes pas d'accord? On va vous donner la parole aussi, les garçons, après.
Et je continue pour dire que plus on avance, ce problème-là s'amplifie. Si nous prenons le cas de nos universités, par exemple, tout à l'heure, on l'a dit, nous sommes dans un système de LMD. Dans le système
Licence,
master, doctorat. C'est un système où on fait de la recherche. Et pour faire de la recherche, c'est quelque chose de véritablement très sélectif. Très sélectif. Il faut avoir la compétence, il faut fournir des dossiers, tout et tout. Mais je pense que pour ne pas accuser tout le système, mais il y a des brebis galeuses dans le système qui se plaisent à proposer du sexe aux filles en retour de leur suivi. Et ça, c'est chose qu'on voit.
Merci, merci Élodie d'avoir mis les pieds dans le plat, hein, comme on dit. Alors, on va revenir sur tous ces problèmes qui minent la route de la réussite scolaire des filles. Zamblée Théodore Gouimbi, vous êtes sociologue de l'éducation. Par rapport à ces témoignages qu'on vient d'entendre, expliquez-nous comment, à partir de la fin de l'école primaire, les filles disparaissent peu à peu du paysage scolaire.
Au niveau du primaire, depuis une dizaine d'années, nous sommes quasiment à la parité des sexes. C'est-à-dire qu'on a autant de garçons que de filles.
Bon, ça veut dire qu'au départ, tout commence bien.
Oui, au départ, tout commence bien. Et lorsqu'on arrive au premier cycle,
au collège,
du premier cycle, les filles commencent à baisser. Et on a 6 filles pour 10 garçons au collège. Et au second cycle, au lycée, on a 5 filles pour 10 garçons. Et au niveau de l'université, on a 3 filles pour 10 garçons.
Ouais, et on est à peu près à ça, hein, dans l'amphithéâtre, parce que vous êtes vraiment pas très nombreuses, les filles. José, vous qui êtes aujourd'hui une star de la variété ivoirienne, est-ce que, puisque vous avez fait des études dans le supérieur, vous êtes arrivée à l'École nationale d'administration, cet entonnoir qu'a décrit Zamblée Théodore, est-ce que vous l'avez vécu aussi? Vous avez vu autour de vous les filles se raréfier?
Oui, bien sûr, j'ai vu des filles se raréfier dans le système scolaire. Et si vous voulez savoir les raisons, soit c'est manque de moyens financiers, maternité, mariage précoce.
Julie Conné, vous êtes diplômée du très prestigieux Institut Polytechnique de Yamoussoukro. C'est une école où les employeurs font la queue à la sortie pour venir recruter les diplômés. Vous n'avez pas eu du tout de problème pour trouver du travail, Julie Conné.
Non.
Pourquoi, avec une si belle étoile, vous vous êtes engagée sur les droits des filles?
Je pense que ça part d'abord de mon histoire parce que je suis née de père enseignant, paix à son âme, on va l'enterrer dans 2 jours. Et ouais. Merci. Et donc je suis d'une fratrie de 10 enfants, dont 6 filles. Et donc depuis que nous sommes toutes petites, papa n'a jamais fait de distinction entre les filles et les garçons. C'était hors de question qu'on revienne à la maison et faire le ménage parce qu'il voulait qu'on ait les mêmes chances. Et donc, pour mon parcours, j'ai fait le lycée Sainte-Marie de Cocody. Je suis sortie avec un baccalauréat série C. Ensuite, je suis allée à l'INPHB de Yamoussoukro, où j'ai fait les classes préparatoires. J'ai terminé ingénieur en logistique et transport et je travaille en tant que supply chain manager. Mais à côté de cela, j'ai toujours milité dans des organisations des droits des femmes où j'ai fait de l'alphabétisation. J'ai travaillé avec des femmes d'abord où j'ai appris à ces femmes à écrire et à lire. Et depuis que j'ai été présidente de cette ONG-là, j'ai essayé de mettre l'accent sur l'éducation de la fille parce que je me suis rendu compte que tant qu'il n'y a pas de suivi, tant qu'il n'y a pas un accompagnement particulier pour les jeunes filles, nous aurons les mêmes problèmes. Donc c'est surtout accompagner ces filles-là, les mettre dans des conditions, faire en sorte qu'elles aient les mêmes chances que les petits garçons.
Ouais. Théodore Zamblé-Gouimbi, quand on parle de cette pression familiale, est-ce qu'il y a d'abord un problème d'échec scolaire pour les filles, des difficultés pour les filles de suivre la scolarité parce qu'il y a les tâches ménagères et qu'elles ont moins de temps pour faire les devoirs le soir quand elles rentrent? Ou est-ce que c'est vraiment le problème des grossesses précoces qui vient tout percuter, tout bousculer dans la scolarité des filles?
Non, il faut dire qu'il y a plusieurs problèmes. Et les grossesses précoces sont souvent utilisées pour dire que c'est un frein. Mais les chiffres nous donnent autour de 5 000 grossesses. Pourtant, on a autour de 800 000, 900 000 élèves. C'est-à-dire qu'au fond, les grossesses sont marginales.
Mais c'est l'arbre qui cache la forêt, finalement.
Voilà. Il ne faut pas nier la question des grossesses. Mais au-delà des grossesses, il y a d'autres problèmes. Le premier problème, c'est la ruralité. Parce que, généralement, les filles qui quittent le village pour aller au collège, parce que très souvent les écoles primaires sont au village. En fait, 53% de nos écoles primaires sont en zone rurale. Okay? Et quand elles ont l'entrée en sixième, elles quittent la zone rurale pour aller en zone urbaine. Et ça, le premier choc, la vie rurale et la vie urbaine, c'est difficile. Et deuxièmement, elles sont issues de familles souvent de situations financières défavorables. Alors qu'elles grandissent, elles doivent commencer à acheter les premières serviettes hygiéniques, entretien du corps, etc. Donc, elles deviennent très souvent vulnérables. Et la transaction sexuelle est quand même un moyen pour elles d'avoir, si vous voulez, quelqu'un qui peut les prendre en charge. Et puis aussi, la ville a ses charmes. Et ces jeunes qui arrivent du village doivent pouvoir être comme celle de la ville, donc acquérir un certain nombre de choses qui font d'elles des femmes. Aujourd'hui, on a le smartphone, etc. Et puis, on a les mèches. Je dis ça en riant, mais les jeunes filles préfèrent acheter des mèches que d'acheter des manuels. Donc...
José. Ce sont des idées reçues et malheureusement,
Julie connaît.
C'est l'impression qu'on a, mais je vous dis que c'est faux. Et c'est ce cliché-là qu'on veut reproduire. Mais ce n'est pas le cas parce que autant le jeune garçon, il a des choses qu'il achète, autant la jeune fille aussi achète certaines choses.
Vous voulez dire les garçons, les mecs.
Il y a une préférence. Je dis non. Non, il n'y a pas de préférence. Ce n'est pas que ces filles-là, elles préfèrent les mèches. Non, il n'en est rien. Et je pense que non.
On va demander l'avis de José qui a les plus belles mèches de la Côte d'Ivoire.
Attention, ma mèche ne font pas 800 000. Hein. Non, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas d'accord avec lui et je suis du même avis qu'elle. Autant une femme a besoin de prendre soin d'elle, autant un homme, quand il voit son ami bien habillé, il a envie de bien s'habiller aussi. Donc ça fait partie des besoins d'une personne en général.
Ouais. C'est intéressant ce qu'elle vient de dire, José, parce que est-ce que le fait pour une fille de prendre soin de soi, ça peut être interprété comme une coquetterie finalement qui détourne des études, mais est-ce que c'est pas aussi une façon d'être bien dans sa peau, d'avoir davantage confiance en soi aussi pour étudier? Comment vous avez vécu ce passage à l'adolescence où je sais que vous regardiez déjà pas mal du côté du rap à l'époque,
oui,
hein, José.
Moi, à la base, étant très jeune, j'étais très garçon manqué. J'habitais à Djamé, c'est un quartier populaire. J'étais au Chicane, au 220 logements. J'avais les cheveux courts.
Ah ouais?
Voilà, j'ai gardé les cheveux courts du CE1 jusqu'en seconde. Donc, je n'avais pas pour intention d'avoir forcément une belle coiffure ou alors chercher à apparaître particulièrement belle procédure qui que ce soit. Ouais. Voilà.
C'était l'époque où vous chantiez à l'église,
José. Pardon?
C'était l'époque où vous chantiez à l'église.
Oui, c'était l'époque où je chantais à l'église, mais je n'étais pas consciente de quoi que ce soit. Moi, ce que je voulais, c'était chanter, aller à l'école. D'ailleurs, je voulais chanter. Mon père me disait, va à l'école. Je n'avais pas spécialement la tête à être coquette.
En partant de votre exemple, vous montrez que vous aviez les cheveux courts jusqu'à atteindre le lycée. C'est dit, c'est ça, jusqu'à la seconde.
J'avais les cheveux courts, mais il n'y avait pas besoin de mèches, en fait.
Mais est-ce que vous réalisez, là, que depuis 10 minutes, on est parti pour parler de l'école et de la scolarité et qu'on parle du corps des filles? Et pourquoi, Julie Conné?
Malheureusement, et c'est ce que nous ne voulons pas. Ce que nous ne voulons pas, parce qu'il n'y a pas que le corps de la fille, il y a aussi sa tête. Et il y a surtout sa tête.
Et c'est son intelligence aussi.
Malheureusement, aujourd'hui, le jeune garçon et l'homme en général, quand tu vois une femme, il a envie de voir son corps. Mais il n'y a pas que son corps. Il y a surtout sa tête. Et sa tête est beaucoup plus importante. Et pourquoi il faut forcément juger une femme sur son corps? Mais de même qu'on a des femmes qui sont belles, on a des hommes qui sont beaux.
Oui.
De même qu'il y a des femmes qui sont intelligentes, on a des hommes qui sont intelligents. Des femmes peu intelligentes, je dois le dire. Des hommes aussi, excusez-moi, idiots. Donc, il y en a. Excusez-moi, il y en a. Il y en a, en fait. Malheureusement, il y en a. Et donc, ce que nous déplorons surtout, c'est qu'on veut forcément voir la femme parfaite. Et lorsqu'on a une femme qui est intelligente, très souvent, vous avez ces retours-là. Oh, mais elle est gawaze. Oh, elle n'est pas gentille. Oh, elle n'est pas jolie. Mais on s'en fiche. En fait, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que nous, les femmes, nous sommes nous. Vous êtes vous. On n'a pas dit que nous sommes parfaites. Mais ce qu'on souhaite, c'est une égalité de chance, une égalité de droit. Et c'est ce que nous souhaitons. Et on souhaite que cette égalité soit à la base.
Julie Conné, quand vous étiez étudiante à l'Institut Polytechnique de Yamoussoukro, il y avait la classe préparatoire. On vous a dit que vous étiez méchante.
Oui,
ça voulait dire quoi? C'est les garçons qui vous ont dit ça?
C'est vrai que mes amis m'ont traité de méchante. Vous savez, à l'INPHB, quand vous rentrez d'abord, vous êtes dans les classes préparatoires et après ça, il faut préparer le concours pour aller dans les années d'ingénieur. Et lorsqu'on préparait le concours, puisque le resto fermait, il y avait des jeunes garçons qui estimaient que les filles devaient faire à manger. Mais je dis, mais on est dans le même groupe de travail, mais pourquoi est-ce que moi je vais faire à manger? Mais non. Si on doit acheter le garba pour manger, tout le monde va acheter le garba et on va manger. Je n'ai pas à faire de la loco. Je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas dans un foyer. Et d'abord, ça commençait comme ça. On me disait que j'étais méchante.
Julie Conné, quand vous arriviez dans la filière ingénieur, vous êtes combien de filles dans la classe?
Je suis la seule fille.
Vous êtes la seule fille?
Sur 13 élèves, on était 13, j'étais la seule fille et 12 garçons.
Ouais. Théodore Zamblé-Gouimbi, la Côte d'Ivoire, il faut le dire, depuis plusieurs années, au moins depuis les années 2012-2015, il y a eu la réforme des collèges. On a construit beaucoup de collèges de proximité. On l'a entendu aussi dans vos histoires, hein, les voisines, quand vous avez pris la parole. Dès qu'on arrive au niveau du collège, c'est problématique, il faut aller loin et c'est compliqué. Il faut se loger, le problème de l'argent est encore plus prégnant. Est-ce que le fait qu'on ait construit beaucoup de collèges ces dernières années, ça a eu un effet quand même pour garder les filles dans l'enseignement secondaire?
Oui, il faut reconnaître qu'à partir de 2012, avec la réforme du collège, et les collèges de proximité a pour objet de réduire la transhumance donc des jeunes vers la ville. Et les premiers résultats sont bons. Il faut savoir qu'aux derniers examens, on a autant de réussite de filles que de garçons.
Donc il n'y a pas de problème de réussite scolaire quand les filles sont là?
Le problème, c'est quand les conditions sont là, pas quand les filles sont là. Le problème, c'est que la société est entrée dans l'école. Nos étudiantes et même nos élèves ne font pas la distinction entre la vie au sein de l'université et la vie en dehors de l'université. Et elles sont influencées très souvent par ce qui se passe en dehors de l'université. Et comme je me dis souvent, il y a certaines qui préfèrent la bague au bac.
On va essayer d'avancer, on va essayer de comprendre aussi quelles sont les solutions, parce que ça fait 20 ans qu'on raconte ces histoires de grossesse précoce. Vous venez de nous démontrer, Théodore Gouimbi, que ce ne sont pas les grossesses précoces qui, à elles seules, les chiffres des grossesses précoces qui peuvent expliquer l'abandon massif des filles sur la route des diplômes. Mais néanmoins, on a l'impression qu'on rebat toujours les mêmes problèmes. Alors, quelles solutions ? On va en parler dans quelques instants. Vous restez avec nous, 7 milliards de voisins. On est bien sur RFI.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
7 milliards de voisins sur RFI. On est à Abidjan avec le public de l'université au Fouet de Boigny, à Cocody. Et c'est vrai que le débat est agité pour parler de la réussite scolaire des filles dans le système éducatif ivoirien. On est dans une période où les langues se délient hein, pour parler de cette route tellement longue pour les filles qui veulent faire des études, construire leur destin aussi. Le pays est en train de vivre depuis quelques jours un MeToo ivoirien avec un scandale télé où il y a eu une simulation de viol, on va dire un raz-de-marée de protestations, des associations de femmes, des ONG de la société civile. Ça dit beaucoup de choses sur l'image des femmes, sur les droits des femmes. Et il faut s'interroger sur les moyens de les faire réussir malgré ces pesanteurs. On en discute avec vous. José, vous êtes avec nous toujours. Merci d'être avec nous.
Ça fait plaisir.
Vous êtes une idole pour les filles, pour les garçons. Vous avez des messages à faire passer. Et pas seulement pour parler de votre musique, bien sûr. Julie Connet, qui est une militante avec son ONG pour faire réussir les filles dans leur scolarité. Et puis le sociologue de l'éducation Zamblé Théodore Gouimbi de l'université de Korogo, qui est une université dans le nord de la Côte d'Ivoire, très loin d'Abidjan, 600 km. Là aussi, ça permet de voir les vrais problèmes au quotidien. Nous avons au premier rang, dans cet amphithéâtre, peut-être vous ne l'avez pas encore remarqué, elle est discrète, mais elle écoute extrêmement attentivement le débat depuis le début de l'émission. La vice-présidente de l'Université au Fouet de Boigny est avec nous dans l'amphithéâtre A à Cocody. Bonjour Madame Véronique Yobou.
Bonjour.
Je sais que vous êtes extrêmement intéressée par le problème de la place des filles dans le système éducatif ivoirien. Le sociologue l'a dit tout à l'heure, arrivée à l'université, on n'a plus que 3 filles pour 10 garçons. Vous êtes arrivée aux plus hautes marches de la hiérarchie universitaire, enfin pratiquement, vous êtes la vice-présidente. Qu'est-ce que vous souhaitez apporter comme analyse à la lumière de votre propre histoire aussi et de ce que vous vivez en tant que dirigeante de l'université?
Bon, ça me gêne, moi, de parler de moi en tant que femme, parce que pendant tout mon parcours, je n'ai jamais fait la différence entre un homme et une femme. J'ai toujours été entourée de garçons. J'étais souvent la seule fille, mais je n'ai jamais su qu'il y avait des garçons en face qui étaient différents de moi. Donc, ça me dérange. Mais c'est pour dire aux filles que tout est une question de mentalité. C'est vrai que nos jeunes filles, l'éducation qu'elles ont reçue dans les années en arrière, parce que je pense que maintenant c'est plus pareil, on leur a toujours fait comprendre que ces filles-là, c'est le mari qui va s'occuper d'elles et elles devront être femmes et mères. Donc forcément, quand on grandit dans un contexte comme ça, on comprend qu'on peut arrêter nos études parce qu'on trouvera un bon mari.
Oui, mais alors, voilà. Vous êtes de la génération d'au-dessus. Ça veut dire qu'à votre époque, il y avait encore moins de filles à l'université.
Si, c'est sûr qu'il y avait moins de filles. Bon, c'est vrai que je suis d'une famille mixte, père ivoirien et mère française, avec l'éducation qu'elle apporte, qui est quand même différente, c'est vrai. Donc, j'ai été élevée dans une famille moderne qui trouvait normal que je parte à l'école comme mes frères. Bon, après, moi, j'ai fait le collège et le lycée de filles à Yamoussoukro. Donc, j'étais dans un milieu filles, il n'y avait pas de garçons. On a ouvert la première classe de C au lycée de jeunes filles de Yamoussoukro. C'était ma génération. On était les premières filles à faire un bac C. Je ne me suis jamais posé de questions. Hein. Voilà. Après, quand je suis arrivée à l'université, j'étais très bonne en physique, sans demander quoi que ce soit. Et de façon évidente, on m'a orientée en PC, en physique-chimie ici. On était 4 ou 5 filles en PC, en première année. Il n'y avait que des garçons. Moi, je n'avais même pas remarqué qu'il n'y avait que des garçons. Mais oui. Ce qui m'a choquée, et ça, je le dis, et je bossais, on faisait 2 capis, hein, comme vous tous, hein, même étant fille. Je demandais, mais comment on doit bosser pour pouvoir réussir? Et puis, il y a un doublant, un garçon, qui me regarde, il me dit, mais pourquoi tu t'inquiètes? Tu es jolie, tu vas réussir. Il a eu tort de me dire ça parce que c'est ça qui m'a boostée.
Les garçons ne veulent pas qu'on explique.
Bon, je pense qu'il y a un fait quand même qui est réel. Depuis le primaire, le collège, le lycée, les filles sont quand même harcelées. Ça, il faut le dire, par les enseignants. Alors, pour eux, étant une fille, comme ils disent, jolie, c'était évident que forcément les profs allaient me draguer ou allaient me donner des notes par complaisance. Je suppose ce qu'ils pensaient.
Est-ce que ça existe encore aujourd'hui, Madame la vice-présidente de l'Université au Fouet-Boigny?
Oui, bon, j'ai entendu, j'ai eu des échos, hein, qu'on m'a dit que dans certaines UFR, parce que c'est pas que je veux défendre mon UFR, moi je suis en sciences. En sciences, j'avoue qu'on le voit pas vraiment.
Aujourd'hui, c'est plus compliqué pour les filles, finalement, paradoxalement, par rapport à votre époque où vous étiez si peu nombreuses.
Oui, bien sûr. Bon, mon époque était une époque différente de celle-ci, c'était l'époque du premier président, Félix Houphouët-Boigny. Où à l'université, on n'était pas nombreux, d'accord ? On avait tous des bourses, on était tous logés, tous les filles, garçons, dans les cités universitaires. On avait des cars pour nous ramener. Enfin, les conditions étaient réunies pour réussir.
Vous voulez dire que la massification des études, finalement, paradoxalement, elle ne profite pas tant que ça aux filles ?
Bon, pas qu'elle ne profite pas aux filles. Moi, je ne parle pas seulement des filles, mais je veux dire que la massification a fait que l'infrastructure n'a pas suivi comme il fallait. Bon, là, je ne fais pas de politique, rien. Je parle vraiment avec mon cœur. Et je sais que pour les étudiants, il y a plus d'étudiants. Et ces étudiants-là, pour la majorité, sont de familles quand même. Bon. Je ne veux pas. Donc, des familles moyennes, réduites, voilà. Et que donc, aujourd'hui, vivre à l'université, être étudiant à l'université, c'est vraiment difficile, compliqué, ça il faut le dire. Et pour les filles, elles ne sont pas plus fragiles que les hommes. Mais c'est vrai que les filles dormies dans un amphi, dans les boîtes, les conteneurs qui traînent là-bas, pour des filles, comme elles sont exposées.
Attendez, je ne comprends pas. Vous avez parlé de boîtes.
Il y a des conteneurs qui sont déposés sur les parkings. Il y a des étudiants qui les utilisent le soir comme chambre. Bon, une fille, elle ne peut pas se mettre comme ça, dormir n'importe où, parce qu'elle s'expose. Même ici, elle s'expose.
Véronique Yobou, il y a 10 ans, il y a eu un grand ménage sur le campus de l'université Houphouët-Boigny de Cocody. On a fermé des boîtes de nuit, on a fermé des lieux de rencontre. Il y avait de tout ici sur le campus. Moi, j'ai vu ça en reportage. Il y avait des liasses de billets au petit matin qui circulaient. C'était l'argent aussi des passes de la nuit, parce qu'il faut le dire. Il y avait des bouteilles de whisky qui circulaient dans les couloirs. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ?
Bon, quand on a rouvert en 2011-2012, les choses avaient l'air d'avoir changé. Bon, malheureusement, tout doucement, les vilaines habitudes se sont réinstallées.
C'est-à-dire ?
Non, je ne veux pas aller plus loin parce que bon... Quand je dis les vilaines habitudes, c'est de tous les côtés. Hein. Voilà.
Qui est responsable ?
Bon. Non, je préfère ne pas me prononcer là-dessus.
On va donner la parole à des filles qui peut-être veulent s'exprimer là-dessus, sur l'état de l'université aussi, qui ne facilite pas la réussite scolaire des filles. Cynthia, Laetitia, elles sont là.
Moi, ce que j'aimerais dire... Ce n'est pas facile pour les filles. Lorsqu'elles perdent leurs parents, ou bien lorsque les parents sont pauvres, c'est vraiment difficile. J'ai perdu mon père en classe de 3e. Ce n'était vraiment pas facile. Il me fallait vendre pendant les 3 mois de vacances, acheter toutes mes fournitures scolaires et l'année suivante aller à l'école. J'ai fait ça sur 3 ans. J'ai eu le bac C. Mais personne à l'école ne m'a approché. Les gens ne savaient pas même que je souffrais, que je ne mangeais pas, que je n'avais rien. En tout cas, je n'avais rien. La chose qui m'intéressait, c'était mes études. Je voulais réussir. Parce que j'ai vu que ma famille était pauvre, il fallait que je réussisse. Lorsque j'ai eu le bac, on m'a orienté en CVG. J'ai fait une année en CVG, je n'ai pas terminé l'année. C'était tellement difficile. J'ai demandé à ma tutrice de me remettre 3000 francs. Je vais vendre des oranges et passer des concours que je ne peux plus aller à l'école, je suis fatiguée. J'ai vendu les oranges et passé le concours, ça n'a pas marché. J'ai cherché à avoir un local, à avoir un endroit où dormir à Cocody. Parce que je n'avais pas de l'état à Yopougon, à la zone industrielle. Et j'ai cherché à avoir un endroit à Cocody. J'ai travaillé dans un restaurant, me donnait 7500 par mois. J'ai travaillé pendant 2 ans. Après, j'ai pris ce que j'ai reçu pour gérer une cabine. Et c'est avec la cabine que j'ai repris les cours à l'université en sociologie en cours du soir.
C'est ça, c'est l'argent gagné par la cabine de téléphone, hein, c'est ça ?
Oui, j'ai la cabine téléphonique, c'est ça.
Ça veut dire qu'à chaque fois, vous devez vous interrompre dans vos études, gagner de l'argent et retrouver le chemin de l'université. Oui, donc c'est encore plus long, finalement.
Oui.
Mais est-ce qu'il n'y a pas, dans la structure de l'université, des femmes ou des hommes qui vous ont dit « Accroche-toi, on va t'aider un tout petit peu, tu vas y arriver ».
Il y avait un tonton à l'église qui avait décidé de m'aider. Mais il a décidé que je fasse le concours de l'INFAS en privé. Il allait payer 500 000. L'année-là, il est parti. On lui a dit que le directeur lui a dit que c'était plus de 500 000. Il a dit qu'il n'aimait pas la corruption, donc il ne paye pas. Il a dit au tonton, comme j'aime l'humanité, j'aime la socio, qu'il m'aide à finir mes études en socio. C'était la fin. Il dit qu'en socio, en Côte d'Ivoire, on ne devait rien, quand on ne fait rien, le diplôme de sociologie, donc il ne peut pas m'aider, qu'il ne peut pas. Donc le tonton m'a laissé en licence 3. Je lui ai même dit que j'avais 100 000 francs avec ma cabine qu'il complète. Il fallait venir l'ordinateur de la Chine, qu'il complète moi pour m'offrir un ordinateur. Il m'a dit qu'il avait déjà 5 personnes qui lui ont demandé un ordinateur qui ne pouvaient pas m'aider. Mais j'ai compris qu'il était fâché parce que je voulais faire la sociologie, ouais. Je ne voulais pas.
Mais Laetitia, ce que tu racontes là, il y a plein de garçons qui vivent la même chose aussi. Peut-être que les garçons là, ce sont des difficultés que vous vivez également ou pas. Je voudrais qu'on laisse la parole à un garçon. Merci de te présenter. Vas-y.
Oui, d'abord, bonjour. Moi, c'est Prince. Voilà, je suis étudiant en géographie. Je voudrais dire que, oui, il y a le corps et il y a l'esprit de la femme. Il y a ce qui se passe dans la tête de la femme. Mais c'est, le plus souvent, c'est les filles elles-mêmes qui exposent leur corps. Voilà. Dans les lycées, l'exemple que je prends est qu'il y a des lycées ou des grandes écoles où on demande à des filles de coudre des tenues qui dépassent même les genoux. Mais il y a des filles, et le plus souvent, c'est des filles même qui ont les moyens qui arrivent à faire cela. Les parents mettent tout à leur disposition, mais elles arrivent à coudre des tenues qui n'arrivent même pas au niveau des genoux. Vois, des petites tenues. Est-ce que vous voyez? Maintenant
ça.
Que...
Toi, tu es venu pour étudier ou bien tu es venu pour regarder les cuisses de la fille qui a
porté. Mais c'est ça!
Concentre-toi sur ce que tu as à faire.
Concentre-toi, les jupes sont longues, les jupes sont courtes.
Étudie, c'est ce qu'on demande. Est-ce qu'on te demande de regarder la petite jupe de la fille?
Merci Prince. Julie connaît te
oui.
répondre.
On veut que tu vois au-delà. Parce que la jeune fille, même si sa jupe est courte, elle ne te demande pas de la harceler, elle ne te demande pas de la regarder. Elle vient
d'accord.
à l'école au même titre que toi. Et c'est ce qu'il faut retenir. Parce que les hommes ont malheureusement l'impression que c'est une invitation. Non, ce n'est pas une invitation. Non.
Alors, qui veut s'exprimer? Cynthia. Cynthia veut s'exprimer.
Il faudrait que les politiques se penchent aussi en faveur des filles qui ne sont pas brillantes à l'école. Parce que souvent, les difficultés font que nous perdons beaucoup de choses. Donc, quand vous voyez peut-être dans une classe des filles qui ne sont pas brillantes, que les politiques se penchent vers ces filles-là. S'il faut les mettre en contact avec les élèves qui sont brillants, s'il faut motiver, en tout cas aider ces filles-là à finir leur parcours, leur cursus scolaire, ce serait une bonne chose.
Julie Connet, justement, vous avez ouvert un centre d'études pour les meilleurs élèves isolés de Niakara, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le but, c'est de lutter contre l'échec scolaire des jeunes filles. Mais comme vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous êtes obligé de sélectionner les plus brillantes pour miser sur des filles qui vont réussir.
Non, nous sélectionnons des filles qui ont du potentiel. La fille peut être première de sa classe, mais si elle a ses deux parents qui vivent et qui ont des moyens, cette fille ne sera pas sélectionnée. Mais donc, c'est une fille d'abord qui a du potentiel et qui nous montre qu'elle a envie de travailler. Je donne l'exemple, par exemple, d'une fille qui avait 11 de moyenne. C'est vrai qu'a priori, on prend à partir de 12-13 de moyenne, mais il y a une fille qui avait 11 de moyenne et qui avait déjà perdu un parent et qui venait de perdre le second parent. Et quand elle a été sélectionnée pour le programme que nous avons mis en place à Niakara, nous avons vu que le second semestre, la fille a eu 14 de moyenne et ça n'a plus baissé. Cette fille vient d'avoir le bac. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment créer l'émulation, faire en sorte que des filles qui viennent de familles défavorisées, qui ont déjà des difficultés d'ordre social, qui ont du mal à aller de l'avant, puissent se sentir accompagnées. Parce que le plus important, c'est l'accompagnement.
Comment vous faites concrètement pour accompagner ces filles?
Ces filles-là viennent chaque semaine dans notre centre pour étudier. C'est un centre qui est équipé grâce à de bonnes volontés de dictionnaires, de manuels scolaires. Il y a l'électricité, ces filles ont des ordinateurs. Donc, ce sont des filles qui viennent d'abord pour étudier chaque semaine. Et il y a un suivi scolaire qui est fait. Il y a 3 monitrices que nous avons recrutées, des dames qui sont soit institutrices, soit qui sont au lycée. Il y a les éducateurs aussi du lycée qui nous accompagnent. Et on suit les résultats de ces filles-là. Nous avons des courbes même que nous traçons pour chacune des filles. Et chaque fois qu'on a l'impression qu'il y a une fille qui baisse, par exemple, s'il y a une moyenne qui a baissé, s'il y a une note qui n'est pas très bonne, nous regardons ce qui se passe de très près.
Ce que vous faites, Julie Connet, c'est ce que devrait faire l'école.
C'est ce que doit faire l'école et le parent. Malheureusement, comme on a dit, dans les zones rurales, l'école est loin des élèves et loin des populations. Ce qui fait que la petite fille qui a eu le CEP va au lycée, mais dans une autre ville. Quand on prend le cas du département de Niakara, par exemple, la petite fille, quand elle est au CEP jusqu'au CM2, son école est à côté de la maman et du papa. Mais lorsqu'elle doit aller au lycée en sixième, quand elle est orientée à Niakara, elle est obligée de venir. Et parfois, ce sont des enfants qui louent des maisons. Les parents viennent louer des maisons. Les filles sont livrées à elles-mêmes. On a vu des filles, par exemple, qui louent des chambres avec des garçons. Deux filles, trois garçons dans la même chambre. Et, ah, voilà. Et c'est de cette précarité-là que nous devons parler.
Théodore Gouimbi.
En fait, c'est la question d'égalité de chance. Parce que les conditions dans lesquelles les filles sont scolarisées ne sont pas les mêmes. Et donc, la vulnérabilité sociale de certains parents font que ces enfants-là ne peuvent pas réussir. Vous prenez, par exemple, en Côte d'Ivoire, le collège Sainte-Marie, le lycée Sainte-Marie, qui accueille les meilleures filles au collège et au lycée en Côte d'Ivoire. Mais imaginez que toutes les filles de Côte d'Ivoire soient mises dans les conditions de Sainte-Marie, je suis sûr que le taux de réussite sera grand. Parce que arriver au collège ou au lycée, il y a de la massification et il y a beaucoup de difficultés sociales qui font que les filles, autant que les garçons, mais moins que les garçons, réussissent moins.
Bien sûr, c'est pourquoi nous disons que c'est l'affaire de tous. Ce qu'on déplore aussi, c'est un peu l'individualisme, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de dames qui ont réussi en griffe. Moi, j'ai beaucoup d'amis de Sainte-Marie que je suis obligée chaque fois d'interpeller parce que malheureusement aussi, ce qu'il faut souligner, c'est que la jeune femme, même quand elle réussit, elle pense à sa famille. Ce qu'on doit faire, c'est aller au-delà. C'est vrai qu'on doit se marier, c'est vrai qu'on doit penser à sa carrière, mais c'est aussi penser à l'autre qui n'a pas eu la même chance que nous et faire en sorte que ces jeunes filles-là puissent avoir un accompagnement. Ce que nous faisons, c'est ce que le parent doit faire. Suivre les résultats scolaires, mettre la fille dans des conditions, lui permettre d'étudier, partir voir son professeur pour lui demander « Mais qu'est-ce qui se passe avec ces filles? Pourquoi elle ne comprend pas telle matière ?» Trouver des répétiteurs même pour aider ces filles-là. Mais ça, c'est l'affaire de tous parce qu'il n'y a pas que l'État qui est responsable de l'égalité des chances. Chacun est capable de faire en sorte d'améliorer la vie de l'autre.
En tant que citoyen et citoyenne. On retourne dans le public. Je suis désolée, tout à l'heure, j'ai donné la parole à Cynthia. Ce n'était pas Laetitia. On peut t'applaudir, Cynthia. Maintenant, je donne la parole à Laetitia.
Avant de commencer, j'aimerais rebondir sur l'intervention du cher monsieur assis en chemise bleue.
Prince.
Qui disait que notre tenue était une invitation à l'harcèlement, au viol et tout ça. Mais en fait, je voulais lui répondre pour lui dire que non. Quand on dit qu'en Afghanistan, des femmes voilées, c'est-à-dire qu'ils sont camouflées de la tête aux pieds, sont violées. En fait, la tenue n'est pas une invitation au viol. Voilà.
Laetitia, Laetitia, peut-être que tu vas nous donner ton avis sur le scandale qui a agité tout le pays depuis plus d'une semaine à la télévision.
Ah oui, le scandale du présentateur Yves Dembella.
Oui.
C'est parce que nous,
qui vient d'être condamné à 12 mois de prison avec sursis pour apologie du viol.
Oui, nous on trouve que, bon, je commence en disant que moi-même je suis membre d'une association dénommée la Ligue. Et on
la
a
Ligue
eu
ivoirienne
fait,
des droits
la
des
Ligue
femmes.
La Ligue ivoirienne des droits des femmes. Nous, en fait, notre combat, ça sera de saisir la chaîne.
Tu trouves que les sanctions sont pas suffisantes?
Voilà, on trouve que les sanctions sont
il
pas suffisantes.
Il faut des sanctions pour la chaîne elle-même.
Voilà.
D'accord. Laetitia, tu as 22 ans, tu es militante. On a fait une parenthèse sur ce scandale, mais en réalité, est-ce que pour toi, c'est relié avec un problème plus global sur l'image des femmes?
Ce qui s'est passé à la télévision nationale, c'est ce que bon nombre de personnes pensent de la femme.
Dans l'amphithéâtre, là?
Oui, oui. Voilà un exemple palpable qui dit que le fait que je sois en jupe mini lui donne l'autorisation de soi me tapoter les fesses, de me toucher. Mais c'est ce qu'il veut dire, en fait.
Alors, Laetitia, aujourd'hui, comment on fait pour avancer?
Bon, nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous, ce que nous pouvons faire, c'est de sensibiliser toutes ces personnes-là, que ce soit filles ou garçons, de leur dire que la femme également a ses chances dans cette société-là et que nous avons des cerveaux bien garnis, même bien plus que des hommes, que nous pouvons faire de belles choses pour cette Côte d'Ivoire.
Merci Laetitia. Bonjour Khalidja.
Bonjour Emmanuel.
Je vous donne la parole parce que vous, il y a une personne qui a compté dans votre scolarité. C'est une professeure.
Donc je me présente, je suis Khadija Sibi Fofana, doctorante au département des sciences du langage à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Avant d'en venir à mon professeur, moi je voudrais tout d'abord lancer un appel. Un appel à la société entière. Il faudrait qu'on puisse comprendre que la femme, elle a tout autant le droit et le devoir de contribuer au développement socio-économique de son pays. Et dans cette perspective, j'aurais dit que la société entière a le devoir de l'encourager et de l'accompagner à faire des études le plus loin possible qu'elle voudrait. Et au gouvernement de mettre en place des mesures incitatives pour les femmes qui ont ce courage-là d'aller au bout, de faire des études universitaires et notamment d'atteindre le doctorat. Essayer de respecter autant que possible les 30% qui concernent la place des femmes dans les instances de décision. Essayer de faire en sorte que les femmes au niveau supérieur puissent être au moins 30% à être des enseignants. Et je vais en venir à l'expérience de mon enseignant que vous avez évoqué tout à l'heure. Dans mon parcours jusqu'au doctorat, j'ai eu affaire à une seule femme enseignante. L'image d'une femme enseignante est un modèle pour les apprenants. Ça les incite à aller plus loin, à exceller dans leurs études.
Merci beaucoup, Khadija. Merci. José, vous n'êtes pas enseignante. Et pourtant, les femmes, les filles viennent vous trouver pour savoir comment réussir dans la musique, évidemment, à votre image. Comment vous trouvez votre position et comment vous jouez votre rôle de citoyenne?
Alors, j'apporte ma modeste contribution déjà à travers des chansons et à travers mon mode de vie. Je ne suis pas celle qui est très criarde sur les richesses qu'elle a et tout, parce que c'est quelque chose qui peut susciter d'autres personnes à user de n'importe quel moyen pour pouvoir atteindre ce but. J'ai produit une chanson dans mon dernier album qui s'appelle Cocktail, intitulée « Cherche ton money ». Déjà, la première phrase dit « N'attendons pas les hommes, donc toi, tu vas rien faire dans ta vie. » Attendez. La chanson dit « N'attendons pas les hommes, donc toi, tu ne vas rien faire de ta vie. Hey, » Eh ma chérie, pas de ça. En fait, pour dire aux jeunes filles qu'il faut chercher davantage à s'autonomiser, à se produire elles-mêmes, intellectuellement et puis professionnellement parlant, vis-à-vis des hommes. C'est ma petite pierre que j'apporte à l'édifice.
Ouais, une grosse pierre.
Merci.
Merci, merci beaucoup. Ça sera le mot de la fin. Merci, José. Je précise
avec
que
plaisir.
Vous serez en spectacle à Niamey ce samedi,
oui.
11 septembre, à peine rentrée du Royaume-Uni que vous repartez.
Oui, mais malheureusement et heureusement, on dira.
Oui. Et puis, bien sûr, la tournée en Europe en octobre prochain. On vous souhaite un plein succès. Merci à vous.
Merci du fond du
cœur. Merci d'être venu chez 7 milliards de voisins.
Merci, Emmanuel. Merci à tout le monde.
Merci beaucoup aussi, Julie Connet, pour votre participation, pour votre engagement aussi pour la réussite scolaire des filles. Merci à vous. Zambéthodor.vie, merci. Et puis surtout, merci à vous toutes, les voisines. Vous avez été formidables pour vos interventions. Toutes nos excuses aussi pour celles et ceux qui n'ont pas pu prendre la parole. On est vraiment désolés. On refera des émissions, bien sûr. Merci à l'équipe, Juliette Brault, Romain Dubrac, à Abidjan, Jérémy Bessé également à la technique. Merci à Delphine de Dianous pour l'équipe à Paris. Demain, 7 milliards de voisins, nous serons toujours à Abidjan, à l'université, pour vous donner la parole sur l'emploi des jeunes. Peut-on réussir aujourd'hui en Côte d'Ivoire quand on a moins de 35 ans? Que veulent les entreprises? Que font les pouvoirs publics pour vous aider à réussir? On compte sur vous, vos questions et vos témoignages dans ce même amphithéâtre de l'université de Cocody. Dans quelques instants, le journal sur RFI. Tout d'abord, c'était